Il y a quelques semaines, mon fils me demandait à quoi ça sert d'apprendre tous les temps de la langue française, même ceux qu'on n'utilise pas. Alors pour commencer cette prédication, je vous propose un petit exercice de conjugaison. Et comme on est dans une église, je vous propose de conjuguer le verbe « prier ». Alors, facile d'abord au présent, je prie. Tu pries, il prie, nous prions, vous priez, il prie. C'est un verbe que l'on conjugue au présent, mais qu'on le peut conjuguer aussi à l'impératif. Prie, prie pour moi, j'en ai besoin. Priez pour nous, nous sommes dans une situation difficile. Ou alors le dimanche matin, prions avant le temps de prière. Des fois, une petite voix nous dit « Allez, prie !» Plus souvent qu'on le voudrait, c'est un verbe qu'on conjugue au conditionnel. « Je prierai quand j'aurai le temps. »« Tu prierais, il prierait. » »« Si je trouvais le temps, je prierais. » »« Si nous trouvions le temps, nous prierions. » Au futur antérieur, quand nous aurons prié, nous prendrons tel ou tel cantique. Et maintenant, beaucoup plus dur, alors là, je ne sais pas si vous savez, à l'imparfait du subjonctif. Que je priasse, que tu priasses, qu'il ou elle pria avec un accent circonflexe, que nous priassions, que vous priassiez et qu'il priasse. Ma vie chrétienne aurait pu être meilleure, mais encore eût-il fallu que je priasse. La prière fait partie des incontournables. Voilà la petite image. Alors je fais le malin, mais moi je ne savais pas tout ça, surtout l'imparfait du subjonctif. La prière fait partie des incontournables de la vie chrétienne, source de joie, de paix et d'encouragement, mais aussi parfois source de frustration, de culpabilité, lieu de lutte et de combat. Le sujet est vaste et complexe, et il est même arrivé en tête de nos besoins ressentis. Quant à notre vie spirituelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sondage qu'on avait fait en ligne le 10 septembre, les temps de prière, nous ressentions le désir de progresser dans les temps de prière. Alors, il y a deux textes des évangiles où Jésus parle de la prière à ses disciples. Il y a le texte de Matthieu 6, versets 5 à 13, et Luc 11, 1 à 13. Et c'est autour de ces deux textes que nous, c'est dans ces deux textes que nous trouvons le modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples et qu'on appelle le Notre Père. Dans deux versions qui sont légèrement différentes. Et dans ces passages où Jésus parle de la prière, il met aussi en garde ses disciples contre certaines dérives possibles. Il souligne ce qui est important dans la prière. Et je vous propose donc de réfléchir à ce thème de la prière dans le cadre d'une mini-série de prédications pour répondre et tenter de répondre à trois questions. La première, c'est pourquoi prier ? La deuxième, comment entendre Dieu répondre à ma prière, donc ça ce sera la semaine prochaine. Et comment être un peu plus satisfait de ma vie de prière dans deux semaines. Quoi de mieux, en effet, de parler de la prière pour parler de la connexion avec Dieu. Je nous renvoie à notre mot d'ordre, une famille connectée. Et ce matin, pour répondre donc à la première question « Pourquoi prier ?», nous allons lire dans le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. La version que vous avez là sous les yeux, qui s'affiche, est la version de la Nouvelle Bible en français courant. « Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Une version qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire du Notre Père, et c'est aussi pour cela que je l'ai en particulier choisi. Certains mots, traduits d'une autre façon, vont nous parler d'une façon nouvelle. Quand vous priez, Jésus ne dit pas à ses disciples, si vous avez envie de prier, si vous éprouvez le besoin de prier, il leur dit, quand vous priez, deux fois. La prière fait partie de la vie normale du disciple de Jésus-Christ. Elle n'est pas facultative. Et le réformateur Luther allait même jusqu'à dire que la prière est le métier du chrétien. L'enseignement de Jésus sur la prière repose ici d'abord sur deux mises en garde et ensuite deux bonnes nouvelles. On va commencer par les deux mises en garde. Les écueils à éviter, représentés par deux catégories de personnes. Les hypocrites, d'un côté, et les païens, de l'autre. Et dans les deux cas, Jésus dit « ne faites pas comme eux ». Les hypocrites aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour que tout le monde les voie. Alors, en l'occurrence, dans la bouche de Jésus, ces hypocrites sont sans doute des chefs religieux qu'ils traitent plusieurs fois ailleurs d'hypocrites. Ce sont des gens pour lesquels on s'attend à ce qu'ils prient peut-être, étant impliqués dans le domaine du culte. On s'attend même à ce qu'ils prient en public. Les hypocrites dont parle Jésus prient, mais pas tant pour se faire entendre de Dieu que pour se faire entendre des autres. Leur prière semble s'adresser à Dieu, dans la forme, mais ce qu'ils visent, c'est d'être remarqués, admirés par les autres, par ceux qui, en les entendant, seront impressionnés de la profondeur de leur foi, de leur belle prière, de la qualité spirituelle. Jésus dit d'eux qu'ils ont déjà reçu leur récompense, en sous-entendant qu'ils obtiendront peut-être l'admiration des humains, du moins de ceux qui sont naïfs ou mal informés, mais qu'ils ne s'attendent à rien d'autre de la part de Dieu. Voilà leur récompense. C'est l'admiration des hommes. Et de l'autre côté, deuxième mise en garde, celle qui concerne l'attitude des païens, qui étaient donc les non-juifs, ceux qui ne connaissent pas la révélation de Dieu par l'alliance avec Abraham, qui ne connaissent pas la loi de Moïse et qui sont globalement perçus comme des idolâtres. Les païens prient pour obtenir ce qu'ils veulent de Dieu. Plus ils prient, plus ils pensent avoir de chances d'obtenir ce qu'ils veulent. Et en fait, ce que Jésus décrit ici, c'est une forme de pensée magique. Ils s'imaginent qu'à force de prière, ils auront plus de chances d'être exaucés. Une forme de pensée magique qui relève plus de la superstition que de la confiance en Dieu. La pensée magique, c'est quoi? C'est quand on attribue à telle parole, telle pensée ou tel geste le pouvoir d'accomplir ce qu'on souhaite ou d'empêcher ce qu'on redoute comme par magie. On va croiser les doigts, par exemple, pour avoir de la chance. Penser très fort à quelque chose pour que ça se passe. L'arrivée du bus qu'on attend ou le bon numéro du loto. Là, c'est ces pensées voilà, superstitieuses qu'on peut avoir. Certains sportifs aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais font toujours les mêmes gestes avant d'entrer sur le terrain. Ils pensent que ça leur porte chance et que ça va leur donner la victoire, ou avant de s'élancer dans une course. Ou encore, quand quelqu'un est de mauvaise humeur, on lui demande s'il ne s'est pas levé du mauvais pied, comme s'il y avait un bon pied et puis qui déterminait et conditionnait toute notre journée. Une petite blague avant d'aller plus loin. C'est mon papy qui me l'avait raconté. Il avait dit, il y a deux personnes qui discutent, puis il y en a un qui dit, mais moi je ne suis pas du tout superstitieux. Et l'autre dit, ah bon ? Mais alors pourquoi tu as mis un fer à cheval sur ta voiture ? Il dit, ah mais ça n'a rien à voir. Le fer à cheval, ça marche même quand on n'y croit pas. On a tous des manies ou des rituels qui nous rassurent. Mais quand la pensée magique prend trop de place, ça devient un handicap, voire une pathologie. Il ne faudrait pas penser que les mises en garde de Jésus ne concernent que les chefs religieux ou les païens de son temps. D'ailleurs, il s'adresse pas à eux. Il dit à ses disciples, ne faites pas regarder comment les autres font autour de vous, ne faites pas, ne tombez pas dans ces travers. Jésus s'adresse à ses disciples. Tout disciple de Jésus-Christ peut tomber dans l'un ou l'autre de ces écueils. Tout chrétien que nous sommes, nous pouvons tomber dans notre façon de prier dans une forme d'hypocrisie ou de pensée magique. Alors, où peuvent se cacher l'hypocrisie et la pensée magique dans nos prières ? Le même risque que celui des chefs religieux peut nous concerner lors d'un temps de prière publique, lorsque nous voulons montrer aux autres combien nous savons prier, avec des mots théologiques choisis, et en citant des versets pour montrer notre culture biblique. Nous pouvons plus largement nous interroger sur les motivations aussi derrière les prières que nous adressons à Dieu, que ce soit en public, mais même en privé. Alors je ne dis pas que toutes ces choses que je viens de mentionner sont mauvaises, elles sont un don aussi qui enrichissent nos temps de prière, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, il est bon de se poser la question. Et quant à la pensée magique, elle peut être présente dès le moment où nous instrumentalisons la prière. Par exemple, on pense que quand on visualise quelque chose qu'on demande à Dieu, alors on le recevra. Ou encore que la demande, plus elle est précise et détaillée, plus elle aura de chances d'être exaucée. Prétendre que si notre prière n'est pas exaucée, c'est parce que nous manquons de foi, est aussi une pensée magique. Ça relève du même mécanisme. Et que dire aussi de notre usage de la formule « au nom de Jésus » ? Elle n'est pas mauvaise. Mais pour donner plus de force à notre prière, non, elle ne donne pas plus de force à notre prière. Ce n'est pas une formule magique. On peut même s'interroger sur la nécessité qu'on a quelquefois de prier avant chaque repas. Aurait-on peur de tomber malade si on ne le fait pas ? Alors comprenez-moi bien, tout cela n'est pas mauvais. En soi, soyons juste vigilants dans nos temps de prière de ne pas dévier en se disant que ça va être mieux accepté de Dieu, notre personne va être plus aimée. Soyons dans l'authenticité et la confiance en Dieu, pas la confiance dans nos prières. Ensuite, deux bonnes nouvelles. Après ces deux mises en garde, il y a deux bonnes nouvelles. Jésus ne se contente pas de mettre en garde ses disciples contre des dangers qui concernent leur vie de prière, mais il affirme aussi de façon positive ce qu'est la prière et ce qu'elle procure, pourquoi elle est importante pour le croyant, avec notamment deux bonnes nouvelles. Deux bonnes nouvelles qui sont toutes simples, mais ça nous fait du bien de les réentendre dans la bouche de Jésus. La première... Dieu nous attend dans la prière, c'est ce banc qui est là. Le soleil, c'est peut-être Dieu, je ne sais pas, sur cette image. Il nous attend. Est-ce qu'on va nous asseoir sur ce banc face à lui ? La deuxième bonne nouvelle, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc Dieu nous attend dans la prière, celle-là qu'il veut nous rencontrer. C'est le fameux lieu secret dont parle Jésus. Par la prière, nous allons à la rencontre de Dieu. Ce Dieu dont nous avons chanté ce matin, la sainteté, nous sommes aussi allés à sa rencontre par le chant, par la louange. Dans la prière, nous avons ce même mouvement. Nous allons à la rencontre de Dieu qui est là, dans le lieu secret. Le secret, ça peut être un lieu dans notre maison, dans notre cœur, parce que c'est là qu'il nous attend. Ton Père qui est là, dans le lieu secret. Voilà pourquoi j'ai besoin de prier. Nos prières tissent un lien avec Dieu. Elles nous permettent de mieux le connaître et d'être plus proches de lui. Et la diversité, d'ailleurs, de nos prières va témoigner de la richesse de notre lien à Dieu. Vous savez qu'il y a des prières d'adoration, de repentance, de reconnaissance et de demande et d'intercession. Nos prières sont une expression de notre vie spirituelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Ça, c'est la main du papa et la main du tout petit enfant. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Alors, question, pourquoi lui demander dans ce cas? Pourtant, il est légitime d'adresser des prières de demande à Dieu. Plus de la moitié, d'ailleurs, de la prière du Notre Père qui suit est constituée de prières de demande, y compris pour le pain de chaque jour. Adresser à Dieu une prière de demande ou d'intercession, lui demander quelque chose pour soi ou pour les autres, c'est d'abord exprimer notre confiance en lui. Ce n'est pas qu'on va informer Dieu de nos besoins, il les connaît déjà, mais nous exprimons ainsi notre confiance en lui. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Prier, c'est dire notre confiance en Dieu. Je ne vais rien lui apprendre. Il sait déjà tout. Et mon but premier n'est pas d'obtenir quelque chose de lui, comme si son cœur n'était pas ouvert à me le donner, à me l'accorder. Mais c'est sans doute d'abord comprendre de quoi j'ai vraiment besoin. Il devrait toujours y avoir sous-entendu à toute demande cette petite phrase que Jésus a prononcée dans sa prière à son Père dans le jardin de Gethsémané, « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » En arrière-pensée de toutes nos demandes. Et des fois, ça nous arrive de prier, de venir avec Dieu et « Ouais, là j'ai une bonne demande. » Et de conclure, « Mais Seigneur, fais quand même, je t'ai dit ma demande, mais que ta volonté se fasse. » Adresser une prière de demande ou d'intercession à Dieu, c'est lui dire « Seigneur, je m'adresse à toi pour ce qui me dépasse, ce que je ne peux pas maîtriser, ce qui me fait peur, ce qui me perturbe et m'inquiète. Je te demande ceci ou cela parce qu'il me semble que c'est juste et bon de te demander cela. Mais je te fais confiance parce que toi, tu sais ce dont j'ai besoin ou ce dont telle ou telle personne a réellement besoin. » Pourquoi est-il important de prier? Pour cultiver notre relation avec Dieu et affermir notre confiance en lui. Et si on comprend bien ce double objectif, alors on évitera les écueils de la prière hypocrite ou de la pensée magique. Dans notre vie de prière, appuyons-nous sur ces deux bonnes nouvelles, toutes simples, que je viens de nous rappeler. De l'enseignement de Jésus, Dieu nous attend dans la prière et il sait de quoi nous avons besoin. Si nous recevons vraiment ces deux bonnes nouvelles, alors notre vie de prière servira à construire notre relation avec Dieu. Et je vous laisse avec ce petit dessin, se connecter à Dieu, mot de passe, la prière. Je vais prier. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous adresser à toi. Qu'avec la bouche que tu nous as donnée, des sons puissent sortir de notre bouche que tu entends avec ton oreille. Quel privilège aussi de pouvoir être silencieux devant toi dans un temps d'écoute, parce que tu sais lire aussi ce que nous ne pouvons dire et les sentiments de nos cœurs. Notre Dieu, aide-nous chacun et chacune à vivre des temps de prière forts avec toi, à persévérer, parce que tu nous attends. Tu sais de quoi nous avons besoin. Nous te louons et t'adorons. Amen.